À l'écoute des RFI, merci de nous écouter où que vous soyez sur la planète. Il est tout juste 20h en temps universel et à Conakry, 22h à Paris.
Adrien Delgrange.
Avec Sylvie Berruet ce soir pour vous présenter le journal en français facile. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Et au sommaire de ce 24 octobre, les élections américaines. Donald Trump a voté aujourd'hui et nous serons en Floride. Dans l'actualité aussi, cette nouvelle attaque verbale du président turc contre Emmanuel Macron. En Guinée, de la politique avec 59% des voix, Alpha Condé déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Son opposant, Sélou d'Alain Diallo, annonce contester les résultats devant la justice. Et puis enfin, un mot de sport dans ce journal. Rugby, France, Pays de Galles, c'est la mi-temps à l'heure actuelle et les Bleus mènent 21 à 13. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Le journal en français facile.
Aux États-Unis, plus que 10 jours avant l'élection présidentielle.
Et dès aujourd'hui, Sylvie, Donald Trump a voté. Il était en Floride, un vote de manière anticipée, c'est-à-dire avant la date officielle de l'élection, ce qui est autorisé aux États-Unis et comme l'ont déjà fait plus de 55 millions d'électeurs. Un président sortant, Donald Trump, qui est à la traîne dans les sondages et il veut garder le rythme dans cette campagne électorale. Après avoir voté ce matin, il enchaîne dans la journée 3 meetings. C'est un sujet de Loubna Anaki.
J'ai voté pour un type qui s'appelle Trump, annonce le président aux journalistes à la sortie de l'urne. Donald Trump était dans une bibliothèque à Palm Beach, en Floride, pour déposer son vote anticipé, rejoignant ainsi plus de 50 millions d'Américains qui ont déjà voté, comme le permet la loi. Mais le président en a profité pour critiquer une nouvelle fois le vote par correspondance, dont il met souvent en doute la fiabilité.
Mon vote s'est bien passé, bien plus sûr que quand vous envoyez votre bulletin par courrier. Tout était parfait, très strict dans le respect des règles. Quand vous envoyez votre bulletin par la poste, vous ne pouvez pas être sûr.
Portant un masque et une cravate rose flamboyante, le président a également affirmé être confiant quant à l'issue de l'élection, même si les sondages le donnent toujours à la traîne face à Joe Biden.
Il y a beaucoup d'engouement. Je crois qu'on est très bien en Floride et qu'on s'en sort très très bien partout ailleurs.
À 10 jours du scrutin, le président intensifie ses meetings. Cet après-midi, il se rend dans 3 États différents, la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et puis enfin, son rival, le démocrate Joe Biden, a de son côté poursuivi sa campagne électorale aujourd'hui en donnant des meetings en Pennsylvanie.
En Afghanistan, le groupe État islamique revendique l'attentat contre un centre éducatif à Kaboul.
Et c'était un attentat suicide. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi près d'un établissement, qui propose des formations pour les étudiants afghans. Au moins 18 personnes ont été tuées et 57 autres sont blessées.
Et on en vient maintenant, Adrien, à cette crise diplomatique entre la France et la Turquie.
Le président turc met en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron. L'Élysée dénonce des propos inacceptables. C'était à la télévision turque il y a quelques heures. Recep Tayyip Erdogan s'en prend au président français avec virulence au sujet de l'islam. Il y a 2 semaines, le président turc avait vu comme une provocation les déclarations du président français sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France. Réaction de Paris. Nous n'entrons pas dans des polémiques inutiles et n'acceptons pas les insultes. Et puis enfin, sachez que l'Élysée annonce ce soir le rappel de son ambassadeur de France à Ankara. En Guinée, à présent, cet après-midi, la commission électorale a proclamé les résultats de l'élection présidentielle, donnant vainqueur à Alpha Condé avec un peu plus de 59% des voix. Son principal rival, Sélou d'Alain Diallo, conteste ce résultat. Il a lui obtenu 33,5% des voix, toujours d'après la CENI. L'annonce de ces chiffres a entraîné immédiatement des violences à Conakry. Et nous en parlerons d'ailleurs dans votre prochain journal à 22h30, temps universel, Sylvie Berruet.
Actualité également, 2 présidents qui sont à l'isolement, Adrien.
Tout d'abord, le président algérien, Abdelmajid Tebboune, s'est mis, lui, volontairement à l'isolement pendant 5 jours après une possible contamination par le coronavirus de plusieurs hauts responsables de la présidence algérienne. Et puis, en Europe, le président polonais, est lui aussi en quarantaine, âgé de 48 ans, Andrzej Duda, a été testé positif au coronavirus.
La Pologne, par ailleurs, où plusieurs milliers de personnes protestent contre une décision de justice sur l'avortement.
Et dès hier soir, près de 10 000 manifestants se sont rassemblés dans les rues de la capitale, Varsovie. Ils s'opposent à une interdiction du droit à avorter dans le pays. La mobilisation a continué aujourd'hui. Et cette fois-ci, plusieurs centaines de personnes ont décidé de se réunir devant les locaux du parti au pouvoir. C'est un reportage de Sarah Bakaloglou.
Deux jours après la décision du tribunal constitutionnel, Christina Kapura est toujours sous le choc. La directrice de la Fédération pour les femmes et le planning familial en Pologne ne manque pas de mots pour décrire son émotion.
Frustrée, épuisée, brisée. Je n'arrive pas à croire que cela arrive en Pologne, membre de l'Union européenne. C'est une vraie tragédie pour les femmes, en particulier celles vivant dans les villages, sans emploi et sans argent, parce que les femmes aisées, elles se débrouilleront. Mais pour les autres.
Car désormais, l'avortement est autorisé seulement à la suite d'un viol ou en cas de danger pour la vie de la femme. Une décision dont est responsable le parti au pouvoir, dénonce Monika. Cette Polonaise est venue manifester contre le gouvernement.
Ce n'est pas seulement à propos de l'avortement, c'est à cause de la manière dont le gouvernement, pendant la nuit, nous retire nos droits. C'est la manière dont ils le font, la manière dont ils nous traitent. Depuis que le parti Droit et Justice est au pouvoir, on manifeste toujours pour les mêmes choses, les droits des femmes, les LGBT et les réfugiés.
La jeune Polonaise confie songer sérieusement à quitter la Pologne, tout comme beaucoup de ses amis. Sarah Bakaloglou, Varsovie, RFI.
Et en France, maintenant, c'est une affaire qui avait fait grand bruit en août dernier. Une jeune fille bosniaque et musulmane avait été frappée et tondue par sa famille, tondue, c'est-à-dire qu'on lui avait rasé la tête car elle était amoureuse d'un serbe chrétien.
Eh bien, cette famille, Sylvie, vient d'être expulsée de France et c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Les précisions avec vous, Simon Rosé.
Ils sont cinq, les parents et trois frères et sœurs de cette jeune fille à avoir été expulsés vers Sarajevo ce samedi matin, reconduits selon les termes du communiqué publié par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui précise que c'est en raison du comportement inadmissible de cette famille en août dernier. La jeune fille avait en effet été frappée et tondue car elle fréquentait un jeune serbe chrétien. Ses blessures étaient graves, plusieurs côtes cassées et une incapacité temporaire de travail de 14 jours. Cette expulsion intervient le lendemain du procès où les parents ont été condamné à un an de prison, dont 8 mois ferme, et à une interdiction de territoire français de 5 ans. Elle ne satisfait cependant pas l'avocate de la victime. Elle regrette la méthode employée, car cette famille avait déjà pour projet de rentrer en Bosnie-Herzégovine. Projet avorté à cause de l'épidémie de Covid-19. En conséquence, la jeune fille n'a pas pu leur dire au revoir. Elle va rester en France, prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle obtiendra un titre de séjour dans un an à sa majorité.
Simon Rosé.
Le sport, à présent le rugby, ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vu l'équipe de France. Ce soir, les hommes de Fabien Galthié sont opposés au Pays de Galles.
Et la rencontre se joue en ce moment au Stade de France, un stade d'ailleurs sans spectateurs pour cause de coronavirus. Mais Eric Chorin pour RFI est dans les tribunes pour nous faire vivre ce match. Eric, et c'est à l'instant même le début de la seconde période, hein.
Ouais, la seconde période qui redémarre sur ce score de 21 à 13 en faveur de l'équipe de France. Et pourtant, ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Bleus qui ont commencé un essai dès la première minute, un essai d'Alf Penny après une faute française dès le coup d'envoi. Mais ensuite, les Bleus ont su réagir. Ils ont mis du temps quand même parce qu'ils avaient du mal à trouver leur repère. Ça faisait 7 mois et demi qu'ils n'avaient plus joué ensemble, ces joueurs de l'équipe de France. Mais ils ont marqué 3 essais, une percée de Ntamack, un relais de Dupont. Il a été repris à 5 mètres et sur la faute galloise qui s'en est suivi, Cyril Bailly a aplati, puis derrière avec Vakatawa à la passe décisive quasiment 2 fois, 2 essais de Dupont, le demi de mêlée de ce 15 de France pour reprendre l'avantage de la confiance et du jeu ici dans un Stade de France évidemment totalement vide, huis clos oblige ce soir, mais les Bleus qui ont repris l'ascendant face au Diable Rouge pour l'entame de cette deuxième période à une semaine du match face à l'Irlande pour conclure le tournoi Destination.
Merci Eric Chorin en direct du Stade de France pour nous faire vivre cette rencontre entre la France et le Pays de Galles. Merci de nous écouter, c'est la fin de ce journal.